Donc voici les annonces pour ce huitième dimanche après la Pentecôte. Donc n'oubliez pas que nous aurons le repas de paroisse le lundi 15 août. C'est la fête nationale en France pour les catholiques. Aussi pour le 15 août, j'ai pas mal de projets. J'ai un fidèle qui va venir de Nantes, il s'appelle Clément, qui est un virtuose de piano. J'ai écouté plusieurs de ses concerts, c'est extraordinaire. Et je lui ai demandé s'il accepterait de nous donner un petit concert ici. Il a accepté, le problème c'est qu'il faut que je trouve une salle et un piano. Donc si vous avez quelques idées, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Si j'arrive à trouver une salle et un piano à louer pour l'occasion, on pourrait avoir un concert magnifique parce qu'il joue de façon extraordinaire. Alors on verra. Si bon Dieu veut, ce que je voudrais faire, c'est qu'on fasse la messe évidemment le matin. Messe le matin du 15 août, puis ensuite le repas de famille. Et après, qu'on puisse avoir ce petit concert avant le salut du Saint-Sacrement avec le chapelet devant le Saint-Sacrement pour le 15 août. Aussi, je termine, je pense en principe mardi, la série de conférences que j'ai mises en audio sur Internet sur l'exégèse des évangiles avec les pères de l'Église. Donc il y aura en tout 252, 253 conférences. Donc un gros travail que j'ai commencé il y a 3 ans, donc il va terminer en principe ce mardi. Donc j'espère que ceux qui m'écoutent sur Internet seront intéressés, qu'il y aura des gens qui auront le courage de se lancer là-dedans. L'exégèse des évangiles, c'est-à-dire l'explication des évangiles selon l'esprit de l'Église. Et l'esprit de l'Église, pour comprendre les évangiles, c'est l'esprit des pères de l'Église. Ce sont les pères de l'Église qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Donc tout cela sera sur Internet. Et déjà sur Internet, je mettrai les dernières conférences audio ce soir, demain et mardi. Aussi, un autre projet, puisque maintenant que j'ai terminé ce gros travail sur l'exégèse, j'aurais commencé une série de conférences sur le magistère de l'Église. En commençant par expliquer à fond les textes fondamentaux des papes Pie IX, qui sont peu connus, surtout quant à Choral Syllabus, 1864. Alors ce que je vais faire, je vais mettre ça en vidéo, pour que les gens de l'extérieur puissent plus facilement écouter les conférences. En plus, avec une vidéo, je peux avoir un tableau. On fera les conférences ici. Je commencerai au mois de septembre. Donc, je vais faire ce que j'ai fait dans les autres paroisses, c'est-à-dire que tous les mercredis, je pense que ce sera le mercredi à 8h le soir, quand je n'ai pas de retraite, je donnerai une conférence ici. Ceux qui veulent venir, viennent. Ceux qui habitent pas trop loin, pourraient venir. Ce sont des conférences d'une heure et demie. Pendant une heure et demie, on fera ça ici à la chapelle, j'expliquerai donc les grands textes liturgiques, les grands textes dogmatiques de Pie IX, on commençait par ça, puis ensuite Saint Pie X. Et on prendra ça en vidéo pour que les personnes de l'extérieur puissent suivre plus facilement ces textes. En vidéo, c'est beaucoup plus facile de suivre. Donc, bien sûr, ceux qui habitent pas trop loin et qui souhaitent venir, on commencera ça en principe au début du mois de septembre. Donc j'ai commencé ça quand j'étais à Lille. Alors évidemment, là-bas, c'était une grande ville, c'était beaucoup plus facile. J'avais plus de 100 personnes tous les mercredis. Ici, évidemment, on ne va pas avoir de 100 personnes, je ne pense pas. En plus, je ne sais pas où je les mettrai. Mais en tout cas, sachez qu'on commencera ça, si Dieu veut, au mois de septembre. Et vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il y a dans ces deux textes qu'a choisi la Sainte Église pour ce huitième dimanche après la Pentecôte des richesses incroyables. D'abord l'évangile de Saint Luc et l'épître de Saint Paul aux Romains. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne une parabole un peu spéciale. Il parle d'un intendant qui était malhonnête. Et il utilisait son pouvoir sur les richesses de son maître pour voler son maître. Alors il était mis à la porte. Et le maître lui dit, rendez compte de votre gestion. Phrase essentielle. Un jour, nous aussi, nous aurons à rendre compte de notre gestion. Le jour de notre mort, nous entendrons notre maître, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, notre Rédempteur, nous poser cette même question. Rendez compte de votre gestion. Qu'avez-vous fait de toutes les grâces que je vous ai données? Qu'avez-vous fait de l'usage de votre intelligence, de votre volonté, de votre mémoire, de votre irascible, de votre concupiscible? Il va falloir répondre. Et l'Évangile fait une remarque très spéciale. L'Évangile nous dit, les enfants des ténèbres sont plus habiles dans le maniement de leurs affaires que les enfants de lumière. Un terme incroyable. Les enfants de lumière, c'est nous. Les enfants des ténèbres sont les enfants du siècle, les enfants du monde. Donc, il y a deux sortes d'enfants. Ceux qui suivent la lumière du monde, notre Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui suivent le prince des ténèbres. Je ne sais pas si vous réalisez la force de cette expression. Les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ sont des enfants de lumière. Et nous participons à la lumière divine. Quelque chose d'extraordinaire. Par comment devenons-nous enfants de lumière? Nous devenons enfants de lumière par le baptême. À condition que nous gardions cette lumière brillante dans notre âme. Le jour de notre baptême, le bon Dieu va allumer une lumière dans notre âme. La lumière de la grâce. La lumière de la charité. La charité, la grâce sanctifiante, l'habitation en nous de la Sainte Trinité, tout ça sont des synonymes. Notre âme devient donc lumineuse. Rappelez-vous la transfiguration. Saint Jacques et Saint Jean, au sommet du Tabor, qui voient notre Seigneur Jésus-Christ qui va dévoiler une toute petite goutte de sa divinité. Sa face va devenir brillante comme le soleil, ses vêtements vont devenir plus blancs que la neige, et les apôtres vont être tellement impressionnés par cette lumière divine, ils vont tomber la face contre terre, en adoration et en crainte. Eh bien, cette lumière, mes bien chers frères, c'est à nous de la garder allumée. Le problème, c'est qu'il y a un commutateur qui nous permet, hélas, d'éteindre cette lumière. Quand éteignons-nous la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme? On éteint cette lumière chaque fois que nous commettons une faute grave. Dès que je commets une faute grave, j'éteins la lumière, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien, et d'enfants de lumière que nous étions par le baptême et la grâce sanctifiante, nous devenons enfants des ténèbres. Nous étions enfants de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, nous devenons enfants du démon. Nous devenons propriété du démon. C'est terrible ça. Quand on réalise un petit peu la force de cette expression, enfant de lumière. L'enfant de lumière qui devient enfant des ténèbres. Et pour comprendre cette expression, il faut aller justement aussi au texte de Saint Paul, texte de l'Épître aux Romains. Et l'Épître aux Romains nous explique justement que si nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, nous aurons en nous les œuvres de l'Esprit. Et par ces œuvres de l'Esprit, nous détruirons la puissance des ténèbres. Si vous suivez les œuvres de la chair, nous dit Saint Paul, vous mourrez. Si vous suivez les œuvres de l'esprit, vous vivrez et vous détruirez les œuvres de la chair. Donc il faut bien comprendre ces différentes expressions de Saint Paul. Et Saint Paul finit avec une phrase extraordinaire. Il nous dit que si nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, nous aurons reçu l'esprit d'adoption des enfants par lesquels nous crions « Abba, Père ». Nous allons avoir en nous l'esprit d'adoption. Et en face, si je suis le démon, j'aurai un autre esprit. Et Saint Paul appelle cet esprit qui sera le nôtre si nous suivons le démon, si nous devenons propriété du démon, un esprit de servitude. Servus en latin, ça veut dire l'esclave. Donc soit je deviens adopté par notre Seigneur Jésus-Christ, et Saint Paul va jusqu'à dire que celui qui a cet esprit d'adoption va devenir enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Je ne sais pas si vous réalisez la force de ces expressions. Si nous sommes enfants de lumière, nous devenons adoptés. Nous sommes adoptés par notre Seigneur Jésus-Christ, non pas par nature. Dieu, le Fils de Dieu seul est Fils de Dieu par nature. Mais nous devenons adoptés par adoption. Dieu va nous considérer comme ses propres enfants et nous donner le même héritage que notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, en comprenant bien ce que ça veut dire. Nous sommes enfants de Dieu, nous devenons enfants de Dieu si nous sommes enfants de lumière, par adoption, pas par nature. Le paradis est pour nous. Le paradis est pour nous si je suis un enfant de lumière. Le paradis sera pour moi si je pratique les œuvres de l'Esprit. Le paradis sera pour moi si j'accepte de reconnaître que je suis enfant de Dieu par adoption. Mais attention, c'est la même chose. Si j'ai le malheur de commettre une faute grave, je deviens adopté par le démon. Si je suis adopté par le démon, il y aura des conséquences énormes à payer pour moi. Il y aura une facture à payer. L'adoption par le démon, si le démon peut venir le jour de notre mort, le jour de notre jugement, si le démon peut apparaître parce qu'il sera là le jour de notre jugement, même s'il n'est pas invité, il vient quand même. Et si le démon peut dire ce jour-là à Dieu, « Cette âme m'appartient, j'en suis le propriétaire. » Dieu qui sait tout, sait que c'est vrai. Et si c'est vrai, si effectivement j'ai eu le malheur de mourir en état de péché mortel, à ce moment-là, le bon Dieu lui-même ne peut plus rien faire. Parce que nous ne serons plus dans le temps, nous serons dans l'éternité. Quand nous sommes dans le temps, on peut changer. Pour changer dans le temps, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du temps, on l'a. Il faut la grâce du bon Dieu qui ne refuse jamais à qui il lui demande avec humilité. Et il faut l'usage de notre liberté. Tout ça, nous avons ici. Et une fois qu'on meurt, on saute du temps à l'éternité. Une fois qu'on est dans l'éternité, qui dit éternité dit absence de temps. C'est la définition même de l'éternité, l'absence de temps. Or, pour changer, il faut passer de la puissance à l'acte. Pour changer, il faut du temps. Donc quand on n'est plus dans le temps, on ne peut plus changer. Si je passe dans l'éternité et que je meurs en état de grâce, je garde cet état d'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ pendant toute l'éternité. Parce que je meurs comme enfant de lumière. Je meurs avec les œuvres de l'Esprit. Je meurs en tant qu'avec un esprit d'adoption qui me fait dire justement « Abba, Père », me dit Saint Paul. Si au contraire, j'ai le malheur de mourir en état de péché mortel, à ce moment-là, je meurs comme enfant des ténèbres. Je meurs avec à ma charge toutes les œuvres de la chair. Et au lieu d'avoir cet esprit d'adoption, j'aurai l'esprit de servitude. C'est ça le jugement. Et ceci nous a été annoncé il y a longtemps. Rappelez-vous les paroles de Dieu au démon, tout à fait au début, ce qu'on appelle le proto-évangile. Tout à fait au début, lorsque Adam et Ève ont été trompés par le démon, qu'est-ce que veut dire notre Seigneur ? Qu'est-ce que veut dire Dieu au démon ? Je mettrai entre toi et la femme, je mettrai entre ta race et la sienne une inimitié. C'est-à-dire qu'il y aura un combat terrible entre les enfants du démon, les enfants des ténèbres, et les enfants de lumière. Ce sont les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ont fait les exercices d'Saint-Ignace, rappelez-vous les règles de discernement des esprits. Les enfants de lumière, justement, ils ont en eux quoi ? La joie, la paix, la lumière précisément, la beauté et l'attraction vers les choses silencieuses, l'attraction vers la prière, le silence. Si au contraire je deviens par ma bêtise enfant des ténèbres, j'aurai en moi l'obscurité, la cécité intellectuelle, la cécité spirituelle, la confusion, l'obscurité bien sûr, la tristesse, la laideur, et je serai attiré par les bruits du monde. Alors mes bien chers frères, il faut comprendre ces choses-là, puisque je suis enfant de lumière par le baptême, vérifions que cette lumière soit allumée tout le temps dans mon âme, que je reste en état de grâce. La pire des choses qui puissent m'arriver, c'est justement de perdre cette lumière divine. Cette lumière divine en moi, c'est quoi ? C'est la lumière de l'état de grâce. Et à ce moment-là, je deviens enfant de Dieu par adoption, héritier du Christ. Héritier du Christ, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais hériter de la vie éternelle si je peux mourir en état de grâce. Et donc, si j'ai le malheur d'être en état de péché mortel, je dirais, il faut tout lâcher pour pouvoir se confesser au plus vite, au moins tout lâcher pour pouvoir obtenir avec la grâce du bon Dieu une grâce extraordinaire qu'on appelle la grâce de la contrition parfaite, qui nous fait regretter nos péchés par pur amour du bon Dieu. N'oubliez pas que si vous êtes loin du prêtre, c'est malheureusement souvent le cas, tout pour ceux qui m'écoutent sur Internet, qui habitent parfois très loin des prêtres, d'un vrai prêtre, bien sûr, le malheur de commettre un péché mortel, vous venez d'éteindre la lumière de l'Évangile dans votre cœur. Vous venez de passer, de devenir enfant des ténèbres alors que vous étiez enfant de Dieu, enfant de la lumière. Vous avez éteint la lumière, vous ne voyez plus rien, évidemment. C'est là qu'il faut savoir se mettre à genoux, même dans l'obscurité, faire un acte de contrition avec un acte de charité, en demandant au bon Dieu la grâce de la contrition parfaite. Et si vous obtenez cette grâce qui vous fait regretter vos péchés par pur amour de Dieu, alors le bon Dieu efface tous les péchés, même sans confession. Il faut réaliser ça. En face de nous, c'est le bling-bling, si vous voulez, du monde moderne. Extérieurement, c'est tout lumineux. En fait, ce sont les puissances des ténèbres qui mènent le monde d'aujourd'hui. Quels sont les trois mots utilisés par les puissances des ténèbres, par lesquels on peut reconnaître de très loin les puissances des ténèbres? Trois mots qu'ils prononcent tout le temps. Liberté, égalité, fraternité. Dès que vous entendez ces trois mots, dès que vous voyez ces trois mots inscrits sur un fronton de bâtiment, sur une pièce de monnaie, sur un billet de banque, sachez que vous avez affaire à la puissance des ténèbres. Liberté, égalité, fraternité. Quand au contraire vous entendez le prince de la lumière, notre Seigneur Jésus-Christ, prêcher, de quoi parle-t-il? Pauvreté, chasteté, obéissance, les conseils évangéliques. Donc il faut réaliser cela. Mon âme est tellement grande qu'elle est capable de devenir un bout de paradis dès ici-bas, mes bien chers frères. L'état de grâce, c'est quoi? L'état de grâce, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. C'est quoi l'habitation en nous de la Sainte Trinité? C'est le paradis. Donc quand je suis en état de grâce, j'ai le paradis en moi. Avec quelques petites différences quand même. Les élus au ciel, ils sont dans le paradis, c'est éternel. Le paradis en moi, si je suis en état de grâce, hélas, il n'est pas éternel. Parce que si j'utilise ma liberté pour faire des bêtises et offenser le bon Dieu, je vais le perdre, ce paradis. Donc il faut réaliser, et c'est ces choses que nous devons garder en tête, mes bien chers frères, pour réfléchir sur cette parole très importante. Rends compte de ta gestion. Rendez compte de votre gestion. N'oublions pas que nous sommes responsables de toutes les grâces que nous avons reçues. Et plus on a reçu de grâce, plus le bon Dieu sera exigeant. Vous voyez, on entend beaucoup trop souvent dans les milieux de la tradition tous ces gens qui me disent, on entend ça tout le temps, « Ah, mais la passion, c'est les Juifs. » C'est vrai. La passion, c'est nous aussi. Peut-être pas oublier. Je sais que je fais grincer des dents en disant ça, mais c'est parfaitement la vérité. Qu'est-ce qui fait plus mal au bon Dieu? Un péché mortel commis par un juif ou un péché mortel commis par un catholique de tradition? Qu'est-ce qui fait plus mal au bon Dieu? Un péché mortel commis par un laïc de tradition ou un péché mortel commis par un prêtre de la tradition? Qu'est-ce qui fait plus mal au bon Dieu? Un péché mortel commis par un prêtre de la tradition ou un péché mortel commis par un évêque de la tradition? Vous voyez, il faut comprendre et réaliser ces choses-là. J'ai en moi un trésor qui ne m'appartient pas. Pourquoi l'intendant a été renvoyé? Il a été renvoyé parce qu'il ne tenait pas compte des choses dont il avait la charge. Et vous et moi, mes bien chers frères, nous avons en charge quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de tellement grand que cette chose est capable de posséder une partie du paradis, notre âme. Substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le comprendre, et le posséder par la grâce sanctifiante, dit Saint Pie X. Donc je suis en charge d'un bien extraordinaire, d'une valeur infinie. La conversion d'un pécheur, c'est un acte plus grand que la création de la terre et de la terre et du ciel, nous disent les saints. Donc j'ai une âme dont j'ai la charge. C'est un bien d'une espèce extraordinaire, d'une préciosité extraordinaire. Il n'y a rien de plus précieux que mon âme. Donc il faut que j'en tienne compte de cette âme. Il faut que je la soigne. Vous avez un rosier magnifique dans votre jardin, vous avez intérêt à l'arroser. Vous allez le protéger pour que la rose puisse justement donner toute sa fragrance. Eh bien, j'ai une âme extraordinaire qui a été créée à l'image de Dieu. L'image et à la ressemblance de Dieu. On est tous créés à l'image de Dieu, même les païens, parce qu'on a tous une âme. On n'a pas tous été créés à la ressemblance de Dieu. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu dans la mesure où nous sommes enfants de Dieu par le baptême et que nous avons cette lumière de l'Évangile en nous, lumière de la grâce sanctifiante par l'état de grâce. Donc il faut méditer, mes bien chers frères, sur cette phrase, rendez compte de votre gestion. Si le bon Dieu venait me chercher maintenant, est-ce que je suis prêt à passer devant lui? Parce que le bon Dieu vient, il nous a prévenu qu'il viendrait comme un voleur. Il ne va pas vous envoyer un texto avant d'arriver en disant attention, j'arrive. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il vient sans prévenir. Et c'est parce qu'il viendra sans prévenir qu'il nous faut être prêts tout le temps. Faut être prêt tout le temps. Donc il faut réfléchir à toutes ces choses-là, mes bien chers frères. Rends compte de ta gestion. Qu'est-ce que j'ai fait de mon âme? Qu'est-ce que j'ai fait de toutes les grâces que j'ai reçues pendant ma vie? Le jour de votre mort, le jour de ma mort, je vais voir l'intégralité de toutes les grâces que j'ai reçues de Dieu pendant toute ma vie. Elles sont énormes. Vous avez reçu, par exemple, la grâce d'avoir conservé la foi. J'ai reçu la grâce de conserver la foi traditionnelle. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi vous? Vous pourriez être, je pourrais être comme tous les gens du monde qui racontent n'importe quoi. Je pourrais être sans la grâce du bon Dieu avec les évêques allemands qui demandent la dépénalisation de l'avortement, qui demandent la dépénalisation de la sodomie. Je pourrais être comme ça, sans la grâce du bon Dieu. Si vous avez conservé la foi, c'est parce que Dieu vous a donné une grâce particulière. Je peux célébrer la messe traditionnelle en tant que prêtre de la tradition, prêtre catholique, c'est parce que j'ai reçu une grâce traditionnelle, une grâce extraordinaire du bon Dieu. Rends compte de ta gestion. Qu'est-ce que j'ai fait de ces grâces? D'abord, qu'est-ce que j'ai fait de mon intelligence? Certes, l'intelligence des hommes a été viciée par le péché originel. Et même après le baptême, nous avons l'ignorance. Mais Dieu nous a donné justement pour vaincre l'ignorance la prudence. Qu'est-ce que j'ai fait de la vertu de prudence? Est-ce que j'ai été prudent? Est-ce que j'ai eu la prudence de l'esprit ou est-ce que je n'ai gardé en moi que la prudence de la chair? Prudence de la chair, c'est les gens du monde. Alors ça pour faire, rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur, les enfants des ténèbres sont plus habiles dans la gestion de leurs affaires que les enfants des lumières. Mais ce n'est pas cette prudence-là, non? Pour lesquels Dieu nous demandera des comptes. C'est la prudence surnaturelle. Qu'est-ce que j'ai fait de la vertu de prudence? Pour ne pas exposer mon âme à la tentation, pour ne pas exposer mon âme aux occasions prochaines volontaires de péché grave. Puis le bon Dieu va vous demander, va me demander, qu'est-ce que tu as fait de ta volonté? Certes, la volonté a été blessée par la malice, mais le bon Dieu nous a donné la vertu de justice. Pour vaincre cette malice, pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à Dieu ce qui est à Dieu, pour rendre au prochain ce qui est au prochain. Qu'est-ce que j'ai fait de cette vertu de justice? Est-ce que j'ai rendu à Dieu ce qui lui appartenait? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que j'ai volé à Dieu des choses qui lui appartenaient en prétendant qu'elles m'appartenaient maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait de l'usage de mon irascible? Ce pouvoir que Dieu a donné à tous les hommes de lutter. Le pouvoir de combat, certes irascible et blessé par la faiblesse, mais Dieu a donné le don de force. Le don de force, il ne faut pas le garder dans sa poche, faut l'utiliser. Est-ce que j'étais fort pour lutter contre le démon? Est-ce que j'étais fort pour lutter contre toutes les tentations? Rends compte de ta gestion aussi sur l'usage de ta force. Puis bon Dieu va me demander, qu'est-ce que tu as fait? De l'usage d'un concupiscible, un pouvoir pour désirer les choses. Certes, ce concupiscible est blessé par la concupiscence, la chair, les yeux et l'orgueil. Mais Dieu nous a donné la vertu de tempérance. Comment ai-je utilisé cette vertu de tempérance? Comment ai-je utilisé l'esprit de pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux? Comment ai-je utilisé la vertu de chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair? Comment utiliser la vertu d'obéissance pour lutter contre l'orgueil? Qu'est-ce que j'ai fait? Et selon le jugement qui sera le nôtre, le jour de notre mort, il y aura deux solutions. Soit je vais entendre notre Seigneur Jésus-Christ me dire, venez les bénis de mon Père. Possédez le royaume qui a été préparé pour les anges. Ou hélas, je vais entendre un autre jugement, terrible. Éloignez-vous, maudits, et allez dans l'endroit préparé pour Satan, le prince des ténèbres et ses anges. Soit notre Seigneur Jésus-Christ m'accueillera avec notre Sainte Vierge Marie, mon ange gardien et tous les anges du paradis, ou au contraire, le démon tirera par la manche en me disant « Tu m'appartiens parce que tu m'as suivi. Tu as voulu devenir mon esclave pendant ce monde, tu es maintenant mon esclave pour toute l'éternité. » Vous pensez à ça, mes bien chers frères. Où sont les enfants des Lumières aujourd'hui? Nous sommes dans une obscurité complète. On vit dans un monde de fous parce qu'ils ont perdu la lumière de l'Évangile. Et ceux qui étaient supposés garder le phare de la tradition, garder la lumière brillante de l'Évangile, au lieu de garder ce phare brillant pour indiquer par son faisceau de lumière l'entrée du port, ils ont éteint le phare. C'est du crime pour moi, parce que c'est un crime d'avoir éteint le phare de la vérité. C'est le crime de l'Église de Vatican II, mes bien chers frères. Et donc, il faut supplier le bon Dieu de pouvoir rallumer au moins dans notre âme ce phare pour que nous puissions être un phare pour les gens qui sont autour de nous. On vit dans un monde complètement de ténèbres, une cécité intellectuelle, une cécité spirituelle totale. On ne sait plus où on va, on ne voit plus rien. Il faut avoir un petit flambeau allumé. Ce petit flambeau allumé, c'est l'état de grâce. Avec une petite flamme de 2 cm de haut. Vous allez me dire, même si l'abbé, qu'est-ce que je fasse avec une flamme de 2 cm de haut? Eh bien, chers amis, avec une flamme de 2 cm de haut, on peut mettre le feu à une forêt. Pourquoi? Parce que cette flamme est une flamme divine, condition de la protéger. Si je me promène avec mon flambeau, ma petite flamme de 2 cm de haut en plein vent, évidemment, elle va s'éteindre. Mais si je la protège, je peux la garder. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie, elle qui avait compris ces choses-là de façon extraordinaire. S'il y avait un enfant de lumière, c'est bien notre Sainte Vierge Marie. Notre Sainte Vierge Marie est certainement la créature, après notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, la créature la plus lumineuse qui ait jamais été créée. Et notre Sainte Vierge Marie, elle n'a jamais éteint sa lumière. Et la lumière divine qui vit dans l'âme de notre Sainte Vierge Marie, dans l'Immaculée Conception, la médiatrice de toutes les grâces, dans la co-rédemptrice du genre humain, cette lumière doit briller de façon extraordinaire au ciel. C'est pour ça qu'après notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le soleil du ciel, la plus belle lumière au ciel, c'est certainement celle de notre Sainte Vierge Marie. Donc demandez-lui, demandons-lui, c'est valable pour moi aussi, demandons-lui ces grâces dont nous avons besoin, de garder notre lampe allumée, de garder notre âme en état de grâce pour que nous puissions transmettre cette lumière. Le jour de la Vigile de Pâques, le soir de la Vigile de Pâques, qu'est-ce que vous avez fait? Le prêtre a allumé au feu qui venait de bénir le cierge pascal, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela qu'il y a les 5 grains d'encens qui ont été placés dans le cierge pascal, dont la couleur blanche, la pureté de la cire, représente la virginité et l'humanité sainte de notre Seigneur. Et ces 5 grains d'encens qui sont mis en forme de croix sur le cierge, dans le cierge, représentent les 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre a allumé le cierge pascal, il va pénétrer dans l'église, et qu'est-ce qu'il va dire? Lumen Christi, lumière du Christ. Et il va mettre cette lumière au centre de l'église, qui est toute dans l'obscurité, qui représente le monde avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dès que le prêtre a placé ce cierge au milieu de l'autel, au centre de l'église, devant l'autel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un petit cierge et il va allumer le cierge, le petit cierge, à la lumière du Christ et le transmettre aux fidèles. Et l'église va devenir toute illuminée à partir d'une petite flamme de rien du tout, mais qui est une flamme divine. Ah mes bien chers frères, prenons garde de garder notre lumière allumée. Supplions à ta Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, notre Mère aussi, supplions-la de nous aider à garder cette flamme allumée, pour que jamais, jamais, nous ne transformions notre âme en une caverne de voleurs. Vous avez fait, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, il accuse dans l'Évangile, il nous accuse d'avoir transformé une maison de prière en une caverne de voleurs. Si je deviens un enfant des ténèbres, si je suis les œuvres de la chair, si j'ai en moi un esprit de servitude, je deviens une caverne de voleurs. Le bon Dieu ne veut pas de caverne de voleurs au ciel. Par contre, si je garde l'esprit d'adoption, si je garde l'esprit de vraie liberté, si je garde ma lumière, si je suis vraiment un enfant de lumière et que je garde les œuvres de l'esprit, alors je pourrai suivre la lumière de la Sainte Vierge Marie au ciel, la lumière du Christ au ciel, et garder cette lumière brillante en mon âme pour toute l'éternité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.